Et on commence cette émission avec, comme chaque semaine, les titres du journal. Évidemment, un journal qui sera largement consacré aux attentats qui ont touché la capitale belge. Hier, aujourd'hui, les stations de métro et de pré-métro de la STIB, la Société de Transport Intercommunal de Bruxelles, ont rouvert à 7h. Des forces de l'ordre, évidemment, présentes en nombre. Le parquet fédéral belge a, quant à lui, donné une conférence de presse faisant un état sur l'enquête actuelle. Rappelons que le bilan s'élève pour l'instant à 34 morts, mais il est, pour l'instant, pas définitif. On reviendra aussi sur le Nadejda Savchenko, qui a été condamnée à 22 ans de prison en Russie et une amende de 30 000 roubles après la mort de deux journalistes russes tués en juin 2014 dans le Donbass, l'est de l'Ukraine, et franchissement illégal de la frontière russe, une affaire qui canalise évidemment des tensions entre l'Occident et la Russie. À suivre également pour la suite de cette émission, l'édito politique juste après ce journal, et on parlera de l'Europe, de la sécurité, suivi des feuillets de l'Europe et des éphémérides. Et pour ça, on retrouvera Vincent Tell. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs.
Un petit avant-goût de soit vos feuillets, soit vos éphémérides à venir, quelques pays?
Alors oui, je peux vous donner des avant-goûts, mais pas trop quand même. Il faut garder encore un peu de suspense. Donc, les éphémérides, eh bien, l'Italie, la Belgique, évidemment, et encore l'Italie, voilà. Et les feuillets, eh bien, je dirais Périscope.
Périscope. Eh bien, on en revient tout à l'heure dans les feuillets de l'Europe, mais pour l'heure, Vincent et chers auditeurs, c'est l'heure du jour. Une poignée de stations de métro et pré-métro de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, a rouvert ce matin à 7h. Les forces de l'ordre sont présentes évidemment en nombre. La vie reprend ses droits à Bruxelles, de nombreux militaires et policiers assurent le contrôle des passagers et de leurs sacs, un dispositif comparable est mis en place dans toutes les stations ouvertes au public. En souterrain, les lignes 2 et 6 ne circulent pas. Les lignes 1 et 5 parcourent leur itinéraire normal, mais ne s'arrêtent qu'à quelques stations. Elles sont également interrompues de part et d'autre de la station Malbec, cible d'une attaque hier. Le réseau de surface est également très perturbé. Par ailleurs, les stations de métro seront fermées à partir de 19h ce soir. Le parquet fédéral a quant à lui donné une conférence de presse ce matin. Le procureur fédéral, Frédéric Van Loof, a bien confirmé qu'Ibrahim El-Bakraoui a servi de bombe humaine à hauteur de la rangée d'enregistrement 11 à l'aéroport de Zaventem. Une bombe qui a fait 10 morts et une centaine de blessés. Il a été identifié à l'aide de ses empreintes digitales. Il était l'homme au centre de la photo capturée par les images de caméras de surveillance. L'autre frère, Khalid, qui a aussi été identifié via ses empreintes, quant à lui le kamikaze qui a perpétré le carnage dans le métro à hauteur de la station Malbec, au cœur du quartier européen de Bruxelles. L'explosion a fait une vingtaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le troisième individu sur la photo n'est pour l'instant pas identifié, il reste activement recherché. Il a déposé un grand sac, puis il est parti avant les explosions. Son sac contenait la charge explosive la plus importante. Peu après l'arrivée des services de déminage de la défense, ce sac a explosé en raison de la grande instabilité des explosifs. Aucune personne n'a été blessée. Frédéric Van Loof confirme également qu'aucune arme de guerre n'a été trouvée à l'aéroport. Suite à un contact avec un taximan qui a transporté les trois individus dans la matinée et contacté les services de police suite aux attentats, les forces spéciales ont perquisitionné un appartement de Charbeck dans l'après-midi. Dans cet appartement, nous avons retrouvé tous les éléments pour fabriquer des bombes, parmi lesquelles 15 kg de TATP, le même explosif qui a servi lors des attentats de Paris le 13 novembre. 150 litres d'acétone, 30 litres d'eau oxygénée, des détonateurs ainsi qu'une valise remplie de clous et de vis, a précisé le procureur fédéral. Dans une poubelle de rue à proximité de l'appartement, les enquêteurs ont également trouvé un ordinateur portable dans lequel se trouvait le testament laissé par Ibrahim El-Bakraoui. Il y explique agir dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout et risquer de terminer sa vie en prison s'il ne fait rien, cite le procureur fédéral. L'arrestation de Salah Abdeslam et la diffusion du portrait d'Ibrahim El-Bakraoui par les autorités suite à la perquisition de forêts ont probablement significativement augmenté la pression sur le fugitif. D'autres perquisitions ont eu lieu à Schaerbeek, une personne a été interpellée. Dans une autre perquisition, un autre individu a été arrêté puis relâché. Alain Lelièvre, directeur du centre de crise, a ensuite pris la parole et assuré que la priorité est l'aide aux victimes et la sécurité de chacun. L'identification des victimes est en cours, mais il est impossible de communiquer un bilan définitif des victimes. Il précise qu'un nouveau lieu central de prise en charge des victimes sera ouvert dès 14h, ce mercredi, à l'hôpital militaire de Noder-Overhembeek. Les personnes y seront accueillies par des représentants médicaux de la police et de la défense. Le centre de crise demande de ne plus contacter les autres hôpitaux. Catherine Debol, commissaire générale de la police fédérale, a aussi expliqué que les restes humains trouvés à Zaventem ont été transférés pour identification vers l'hôpital universitaire de Louvain et les restes humains trouvés à la station Malbec sont transférés à l'hôpital militaire de Neder-Overhembeek. Le bilan officiel demeure de 31 morts et 270 blessés, mais pourrait encore s'alourdir. L'énoncé du verdict a duré 2 jours, contraignant l'ensemble de l'auditoire à y assister debout pendant des heures, comme le veut l'usage en Russie, en se dandinant d'un pied sur l'autre. Puis la sentence prononcée par le tribunal de la ville russe de Donetsk, dans la région de Rostov-sur-le-Don, est tombée. Nadejda Savchenko a été condamnée hier à 22 ans de prison et une amende de 30 000 roubles, soit 394 euros. Suivant de peu les réquisitions du parquet qui avait réclamé une peine de 23 ans pour complicité de meurtre après la mort de 2 journalistes russes tués en juin 2014 dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et franchissement illégal de la frontière russe. Dès lundi, le juge Leonid Stepanenko n'avait laissé aucune chance à l'accusé en décrivant les motifs haine et animosité envers les citoyens de Luhansk et les gens parlant russe en général. Sans surprise non plus, la pilote ukrainienne a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas le verdict et qu'elle ne se pourvoirait pas en appel. L'Ukraine ne reconnaîtra jamais ce tribunal ni ce soi-disant verdict, a réagi aussitôt le président ukrainien Petro Poroshenko sur son site officiel, en affirmant que Vladimir Poutine lui avait promis de libérer la pilote lors de précédentes rencontres. Commencé 6 mois plus tôt, le 22 septembre 2015, dans cette petite ville russe de province située loin de Moscou, mais à un jet de pierre de la frontière avec l'Ukraine, le procès de Nadia Savchenko est devenu le prolongement judiciaire du conflit meurtrier qui oppose les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou au pouvoir central de Kiev. Audience après audience, il a cristallisé les tensions autour de cette femme de 34 ans, pugnace, vindicative, animée d'un nationalisme sans faille et considérée désormais comme un symbole de résistance dans son pays, où elle est devenue députée alors qu'elle se trouvait en détention. Sourire sarcastique plaqué aux lèvres, Nadia Savchenko n'a pas dérogé à son image hier, en se mettant en chantant à tue-tête quelques minutes avant la sentence, un des hymnes entonnés par les manifestants de la place Maïdan à Kiev lors des événements de l'hiver 2013-2014. Vous écoutez EIBS Radio, il est 18h08, l'heure de l'édito politique. Les attentats qui ont frappé Bruxelles hier auront une conséquence politique certaine, la même qui avait suivi les attentats de novembre et de janvier 2015 à Paris, porter la responsabilité sur les institutions européennes. Espace Schengen, libre circulation des personnes, droit d'asile, voilà autant d'avancées européennes un peu plus affaiblies aujourd'hui. Un peu d'intelligence suffit pour comprendre que l'Europe n'est pas à blâmer, ni les contrôles aux frontières, ni la remise en cause de l'espace Schengen sont une réponse au terrorisme. S'il fallait arrêter les terroristes à une frontière, c'est bien des rideaux de fer qu'il faudrait construire, pas de simples contrôles, tels qu'ils existaient il y a 25 ans. Il va sans dire que cette solution n'est pas plus envisageable au sein de l'espace européen que n'est la possibilité de voir un jour les baleines voler, ce qui n'empêchera pas l'extrême droite et les eurosceptiques d'en faire la promotion. Mais si les institutions européennes ne sont pas à blâmer, on peut cependant regretter que si de réelles mesures d'intégration européenne et de transfert de compétences des États membres vers Bruxelles avaient été prises, sans doute la situation serait bien différente. Une agence de renseignement de l'Union, des pouvoirs de police et la création d'une police de l'Union en matière antiterroriste serait sans doute bien plus efficace que la coordination de toute évidence défectueuse des homologues nationaux. Autant de mesures utiles et pragmatiques qui ne seront pas prises par blocus des États membres, plus soucieux de leur pseudo-souveraineté en la matière que de l'intérêt commun de l'ensemble des citoyens européens. Comment luttera-t-on contre le terrorisme si la réponse la plus solidaire et unitaire que les États peuvent s'apporter entre eux est de mettre les drapeaux en berne et de déguiser la tour Eiffel du drapeau belge? Une fois de plus, la solution passe d'abord et avant tout par l'intégration. 18h10 passé de 19 secondes, l'heure maintenant de retrouver Vincent Tell pour les feuillets de l'Europe. Bonsoir, rebonsoir à vous Vincent.
Bonsoir Antoine. Alors je tenais d'abord à vous dire que devant tous nos auditeurs ou notre auditeur, s'il en reste encore un en vie, eh bien que votre papier m'a beaucoup plu.
Sur l'édito.
Deuxième. Oui.
Je vous remercie. Ça fait toujours plaisir.
Pourtant, tout. Vous savez que je suis assez avare en compliments. Et donc, non, c'est exactement...
Mais c'est ce qui confère à vos compliments, Vincent, une valeur toute particulière.
Oui, et c'est normal. Après, maintenant, je vais devoir vous faire une petite remarque.
Ah, allez-y.
On ne dit pas Charbec.
Ah, oui, alors, vous parliez du journal, non pas de...
Je parlais de votre édito, mais vous avez parlé
Vincent,
de Charbec.
Vous qui êtes, oui, vous êtes tout à fait dans le journal, c'est exact. Alors Vincent, vous qui êtes presque, on va dire, par valorisation des acquis de l'expérience.
oh, c'est une belle formule, ça.
Presque néerlandophone, si ce n'est néerlandophone, spécialiste des questions belges, notamment de ce... Notamment, alors que... Quant à moi, je ne connais
via
la Belgique.
La bière, via un parcours.
C'est ça, tandis que moi,
bière.
Je ne connais la Belgique que par des taxations avantageuses sur le tabac et les spiritueux. Vincent, je vous fais, effectivement, je m'en remets à vous pour la prononciation de
oui,
ces noms.
Alors, c'est Scarbeck.
Scarbeck.
C'est Scarbeck, on dit.
Scarbeck.
Scarbeck.
D'accord.
D'ailleurs, nos auditeurs français doivent savoir qu'il y a deux frères qui dessinent, qui font de la bande dessinée, qui sont spécialistes de la bande dessinée et de l'architecture. Et chez les Français, on aurait tendance à dire Schuitens, alors que c'est Skuitens. Voilà, le SCH se prononce que.
Contrairement à l'allemand.
Voilà, oui. Voilà, exactement.
Qui est, comme vous le savez, ma référence privilégiée en petit-fils de nazi.
Chacun
de nazi.
Chacun sa danseuse. Chacun sa danseuse. Donc voilà. Donc c'est Scarbeck. Bon, ceci dit, trêve de plaisanterie.
Vos feuillets, Vincent.
Mon feuillet, c'est un post-it. Hein, c'est même pas un feuillet, c'est un post-it.
Nous serons deux.
Vous savez qu'avant les lâches et malheureux attentats de Zaventem et de Molenbeek, à la station de métro de Molenbeek, il y a eu un autre événement qui s'appelait l'arrestation de Salah Abdeslam. Or, ce Salah Abdeslam a nourrit énormément de sites d'information professionnelle et officielle. Mais cela aussi donné, donc je vous passe et des meilleurs toutes les dernières minutes une information du genre il avait changé de basket avant de partir ou ce genre de choses, il a laissé un paquet de frites ou c'est la commande de pizza qui a donné la puce à l'oreille et la aux forces de l'ordre, donc ce genre de choses. Pour les pizzas, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Alors, écoutez, on a le système d'information et de renseignement qu'on peut. c'est moins cher que des satellites.
C'est vrai.
J'ai évidemment été happé, et c'est pour ça que ce feuillet est véritablement un feuillet sur la société européenne, un feuillet sur le comportement sociétal des Européens. J'ai été happé, comme tout le monde, par cette soif d'informations, d'anecdotes et de dernières nouvelles et de petites pépites. Et c'est ainsi que je suis tombé sur une pépite qu'on pourrait qualifier de vulgaire gaillette, c'est-à-dire un morceau de charbon sans valeur, qui s'intitule Molenbeek, une vidéo montre un moment clé de l'intervention policière. Et alors, j'en ris encore, excusez-moi. C'est une vidéo de 36 secondes. Alors, je vous décris la scène très rapidement. C'est un individu qui tient son smartphone. Il est sans doute debout derrière une vitrine d'un café. Cette vitrine est à plus de la moitié de sa, en partant du bas jusqu'à la taille, jusqu'au visage même de l'individu qui tient le smartphone. Donc, du bas jusqu'au niveau du visage, cette vitrine est recouverte d'un film plastique autocollant adhésif pour empêcher le regard intrusif des passants dans la rue. Donc cet individu s'est levé et en même temps il y a un volet qui est baissé, ce qui fait que il y a une toute petite fente par laquelle il voit la rue et en face de l'autre côté de la rue il y a la porte, figurez-vous, la porte de l'appartement, du logement où se trouvait ce terrible Salah Abdeslam. Et donc pendant 36 secondes nous allons voir un individu qui va mal tenir son smartphone, qui va hésiter à filmer ou à s'abaisser derrière le film adhésif pour se cacher, et à un moment donné, paraît-il, car je n'ai pas vu, un homme va sortir de la maison, et c'est un moment clé. En fait, on ne voit rien d'autre qu'un individu. J'ai pas réussi à le voir. J'ai beau le repasser, il y a un individu qui sort avec la police, mais on ne reconnaît rien puisque la vitre est sale et l'individu a sorti son téléphone, mais il tremble et il n'est pas très courageux de filmer derrière la vitre. Et en fait, on n'en sait pas plus, on ne sait rien. Ça pourrait être quelqu'un qui sort en courbant la tête pour se protéger de la pluie il y a quelques mois. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette vidéo de 36 secondes, je tiens à rappeler, qui est sur le site de RTBF, RTBF Info? Eh bien, tout simplement parce que il y a une tendance, et il y a deux points que je voudrais faire remarquer, c'est que vous pouvez obtenir, lire, voir énormément de vidéos, lire énormément d'articles et faire du surplace au niveau de l'information. C'est-à-dire que vous pouvez connaître toutes ces vidéos, vous pouvez lire tous ces papiers très longs quelquefois, écrits par des journalistes professionnels, ou voir des vidéos extrêmement mal faites de 36 secondes par des individus à la main tremblotante, vous n'en saurez pas plus. Et il y a un côté objet de, il y a une pratique de la sidération. On n'arrête pas de revenir et de relire et de réécrire et de rajouter des micro-informations qui ne servent à rien. Et je pense que c'est l'un des dangers de ce genre d'événement qui, à une époque, était exceptionnel et qui maintenant vont devenir, malheureusement, je le crains, mais j'en suis convaincu, vont devenir une forme de quotidien. Pour reprendre la formule de Orwell, la guerre c'est la paix. On va vivre dans un temps de paix où il y aura des morts comme dans un temps de guerre. Et j'invite avant tout, avec ce feuillet, j'invite nos auditeurs à ne pas céder à cette tentation inutile, comme beaucoup des tentations, de se repaître de toutes ces informations qui vont les gaver, mais qui ne leur apporteront strictement rien, si ce n'est l'aspect néfaste de faire du surplace dans le temps, de rester dans le moment d'un événement qui, somme toute, bon, une arrestation c'était exceptionnel, mais les actions qui ont mené à cette arrestation, l'arrestation elle-même visuellement, elle n'a rien d'intéressant. Et pareil pour les explosions, si c'est pour voir des fragments de vidéos, c'est qui ne nous apporte rien et qui la plupart du temps n'apporte strictement rien. Et j'avais intitulé mon post-it de l'Europe, Périscope, car il y a une application qui, paraît-il, fait fureur et qui fait fureur chez les adeptes.
Oui, le fameux Périscope qui permet de partager des vidéos en direct.
Beaucoup de personnes se sont appliquées à utiliser Periscope pour l'arrestation de Salah Abdeslam et je me suis amusé à lire les commentaires de ceux qui voyaient après les vidéos de produites par Periscope du genre vous pourriez mieux filmer, vous n'êtes pas BFM. Alors, vous faites de mieux cadrage, vous êtes plus proche que BFM Télé. Donc, ça. Donc, à tout prendre, ce qui est rigolo, ce qui est amusant, c'est les interprétations. Donc, et pour conclure, n'oublions pas une chose, tout aussi dramatique selon moi, c'est que, eh bien, sur Twitter, vous avez le Secours catholique qui a publié une photographie d'un jeune enfant d'immigré, sans doute à Calais, je pense que c'est à Calais. Cette photographie du Secours populaire montre cet enfant avec un petit panneau de carton tout défraîchi, c'est marqué « Sorry for Brussels ». Désolé pour Bruxelles. C'est vraiment on rit jaune et on rit noir parce que en effet, il y a plein de gens qui certes sont musulmans, certes ont le faciès du terroriste, mais sont aussi les victimes du terrorisme, sont aussi victimes, ont fui le terrorisme, ont fui les bombardements en Syrie ou la violence aveugle et sanguinaire et maintenant et eh bien subissent la violence d'autres populations et le froid et la faim et il ne faudrait pas les utiliser comme bouc émissaire. Retenons notre soif de vengeance et dirigeons-la correctement.
Merci Vincent.
Voilà. Alors, Antoine,
quant à moi, pour rebondir sur votre post-it entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, les temps sont durs.
Et oui, c'est la crise pour tout le monde. Mais vous m'avez coupé dans mon élan et dans mes remarques, Vincent. Ah oui, j'en reviens à ce que vous dites. Votre allusion à BFM est d'ailleurs très, très rigolote. Enfin, si ce n'est pas la vôtre, en tout cas celle que vous relatez. En effet, quand on regarde maintenant le contenu des couvertures dans ce type d'incident, le contenu est essentiellement sur la recherche des coupables, la recherche, l'état de l'enquête, ou effectivement montrer des images amateurs particulièrement mal filmées, qui, dans l'immédiateté, ouais. Ce type d'image de l'intérieur, subjective, a davantage le pouvoir de rajouter de la panique et de la confusion dans la tête de l'opinion publique, plutôt que d'apporter un état des lieux assez synthétique de la situation. Quelle doit être la réponse d'une rédaction ? Ce que nous pouvons attendre dans une démocratie de rédaction de presse, c'est effectivement une information immédiate au XXIe siècle, immédiate, mais qui se justifie par un intérêt concret. Donc un résumé synthétique de la situation. Quitte à ce qu'il y ait effectivement des images amateurs qui peuvent se justifier, un choix, un tri dans ces images amateurs et non pas les mettre en boucle, même si je reconnais que passer des images amateurs qui sont récupérées sur Facebook ou sur Twitter coûte beaucoup moins cher que d'envoyer des correspondants directement sur place. Certes, c'est une économie. Et enfin, quelle devrait être, et ça me permettra de faire tout à fait la transition avec mon article suivant, le rôle des médias, c'est aussi de communiquer des informations utiles à la population. Ne sortez pas parce qu'il y a une attaque terroriste en cours. Dirigez-vous vers tel et tel point de rassemblement, etc., etc., etc. Donc, il est tout de même formidable que aucune de ces rédactions qui ait des pouvoirs de direct, etc., etc., ne soit pas en mesure de répondre à ce besoin très immédiat. Donc, voilà Vincent, pour rebondir légèrement sur votre post-it. Et ce qui me permet d'enchaîner sur un second article qui nous provient du Guardian. Et Vincent, vous avez parlé de post-it. Est-ce que je peux vous demander, si vous êtes toujours là, combien de caractères êtes-vous en mesure de mettre sur un post-it ? Avec votre écriture, à peu près.
J'écris gros, donc je dirais Une centaine.
Une centaine. Eh bien, un petit peu comme Twitter, finalement, 140 caractères. Et cet article du Guardian a retrouvé ce billet d'opinion, même de Anne Perkins, intitulé « It's not enough to tweet your grief when terror strikes, do something useful ». À savoir, ce n'est pas suffisant de tweeter votre... comment dit-on ?
Votre colère,
votre deuil. Oui. Quand la terreur attaque, faites quelque chose d'utile. Alors, ce billet a toute une partie extrêmement intéressante. Je ne vous le lirai pas en grande partie parce que je suis fainéant. Oui, je suis dans un jour d'honnêteté aujourd'hui. Donc, il a toute une partie, une analyse des comportements de rassemblement. Qui ont lieu, des rassemblements solidaires qui ont lieu dans les différentes villes, et c'est ce qu'on a tout de suite vu après les attentats, puisque par exemple la plus grande assistance qu'a apporté le gouvernement français au gouvernement belge, ça a été de mettre de nouvelles couleurs sur la tour Eiffel et de mettre les drapeaux en berne. C'est une décision politique. Et donc, ces logiques, ces fameuses logiques de rassemblement, ce qu'on avait constaté aussi au soir du 13 novembre ou même au soir de cette journée de janvier et des attentats de Charlie Hebdo, où partout dans le monde, des rassemblements avaient lieu dans les grandes villes pour manifester une solidarité. Et donc, la conclusion de cet article, qui est donc de dire « arrêtez de tweeter pour mettre simplement un hashtag RIP » ou alors un hashtag « je suis Bruxelles », c'est aussi tout simplement de proposer votre aide, surtout si vous êtes sur place, si vous êtes en Belgique, si vous habitez à Bruxelles, plutôt que de simplement dire « c'est atroce, c'est affreux, je suis triste », proposez votre aide. Et il y a même un hashtag qui existe pour ça, puisque nous vivons dans une société de hashtags. D'ailleurs, nous n'allons plus vous appeler Vincent Tell, on va l'appeler Dièse Vincent Tell, tout collé. Et donc cet hashtag... que je soupçonne être en néerlandais, ce que Vincent me confirmera, qui est « Ik wil helpen ». Est-ce possible, mon cher Vincent ?
Oui, sans doute, oui.
Ik, plus loin, W-I-L.
I-L, ah, je veux aider.
Oui, je veux aider.
Ik wil.
Du coup, c'est un...
Ik wil
helpen. Merci, Vincent. Ik wil helpen. Ich will helfen, si on préfère, ça sera plus simple.
Ça sonne mieux.
Donc voilà, ce hashtag, vous pouvez l'utiliser pour mettre sur Twitter, si vous êtes en Belgique, pour offrir un vrai soutien pratique, une chambre, un repas, toute forme de confort. Ou vous pouvez également aller voir la Croix-Rouge belge qui a une page pour faire du fundraising, donc de la collecte de fonds pour les victimes et leurs familles. Et si vous ne savez toujours pas, vous pouvez aussi donner votre sang, comme on l'avait vu, le soir du 13 novembre. Donc arrêtez de tweeter pour ne rien mettre et allez aider réellement la situation. Voilà pour ce billet, Vincent. Est-ce que vous avez un autre post-it à nous proposer ?
Du tout. Par contre, si vous allez sur RTBF, vous aurez d'autres vidéos.
d'autres vidéos amateurs.
Extrêmement courtes d'amateurs qui, justement, montrent...
Filmé en mode portrait.
Salah Abdeslam qui passe la tête par l'encadrement de la porte, comme si regardez... qui avait sonné à sa porte et qui rentre après en chaussons, en babouche. et il ne se doute pas que derrière toutes les camionnettes, il y a des gens en noir, tout noir.
Et oui, parfois,
c'est très drôle.
Il n'y a pas que le facteur qui sonne deux fois.
Il s'amusait à sonner à sa porte. Non mais pour redevenir sérieux, il faut savoir que vous avez utilisé un mot qui est fondamental, c'est confusion pour toutes ces vidéos inutiles, confusion. Et en effet, votre feuillet, que je ne vais pas qualifier de post-it, votre feuillet, c'est en effet qui rejoint d'ailleurs votre édito, c'est le problème de ces pauses de ces poses symboliques que je qualifierais de profanes et de toutes faites, c'est-à-dire les couleurs sur la tour Eiffel, le « je suis Bruxelles »,« ich bin Bruxelles », ou alors « peace for Bruxelles ».
Ou « peace and love, PIS ».
toutes ces formules qui vraiment sont des à notre époque des poses vides et qui en effet ne servent strictement à rien à part peut-être alimenter l'envie de réveiller encore d'autres terroristes
ou des vidéastes amateurs.
Ouais, pour que ça cesse ou pour que ça recommence. Hein.
Mais disons que surtout, si ce besoin de se rassembler derrière finalement des slogans, qualifierons-nous de spontanément citoyens ? Comprenons-la, ouais. À la rigueur, comprenons-la. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable dans toute cette histoire. C'est que tout le monde va dire « je suis Bruxelles » ou va le dire en néerlandais. A fortiori, si la personne parle néerlandais, la suite de mon propos est encore plus juste. Ils le répéteront plusieurs fois, et après, tout le monde ira se réfugier dans les bras du Front National ou du Vlaams Belang.
Voilà.
Donc, des beaux discours citoyens et derrière, du racisme ordinaire.
Ils pourront arriver à un niveau du genre « qu'a fait la police ? Est-ce que notre État était apte à le faire ?» Et là, évidemment, la réponse va être là tout aussi confuse, puisqu'il y aura plein de voix de spécialistes.
Voire même des vidéos amateurs des interventions policières.
Voilà, montrant les bavures ou les incompétences. Mais surtout, c'est que la question, elle peut être posée du genre, est-ce qu'un État est encore apte à affronter ce genre de danger, mais ils n'arriveront pas jusqu'à la réflexion en se disant « mais aucun État ne peut tenir une pose guerrière de surveillance, aucun État seul ne peut tenir une pose de surveillance par rapport à ce type de menace, mais ils n'arriveront pas jusqu'à la conclusion, il faudrait en effet quelque chose comme une intégration des États ou de leurs forces de police, de leurs informations, de leurs renseignements, véritablement dans une police européenne, une force européenne.
Mais même, Vincent, même le partage des fichiers n'est pas fait.
Voilà.
Que le fait qu'un terroriste, parce qu'il est en Belgique, quand il va commettre un attentat à Paris, soit inconnu au bataillon, alors qu'il habite à 1h30 en voiture de la frontière française... C'est plus de la bêtise humaine, ça dépasse l'entendement. Donc, et face à ça, la réponse que l'on apporte, c'est l'Europe est le problème, il faut rétablir les contrôles aux frontières. Vous savez, voilà. Il y a rien que dans le département du Nord, il y a 800 points de passage entre la France et la Belgique. 800 points de passage. Et je ne parle que des routes. Donc imaginez rétablir des contrôles à cette frontière. Et c'est encore penser qu'un terroriste va avoir peur d'emprunter un chemin de campagne. Il va forcément aller sur une route. On en est dans une situation totalement hallucinante. On est incapable d'apporter des réponses réellement pragmatiques à des problèmes de sécurité évidents et immédiats.
Et voilà. Et on alimente plus exactement l'imaginaire, et non pas la raison, on alimente l'imaginaire appauvri, les yeux, je dirais même pas l'imaginaire, mais juste la pupille, la rétine, avec ces milliards de petites vidéos ignobles.
Avec beaucoup de pixels.
Avec beaucoup de pixels, et qui tremblent, avec des traces de doigts.
Oui, qui donnent, qui rendent épileptiques, souvent.
Et ou alors les articles soi-disant de fond et en effet qui va rafler la mise, les europhobes et les nationalistes de tous bords, enfin en particulier d'extrême droite, qui fourbissent leurs armes en ce moment, sans doute déjà pour la Flandre ça sera le cas, qui va proposer du genre « nous, ça ne nous est pas arrivé chez nous », pour entendre à Anvers, à Gand, à Bruges, à Courtrai, et donc ça n'arrivera pas chez nous, et par contre ça s'est produit à Bruxelles. Donc, oui, en effet, je dirais qu'il y a une victime collatérale de tout cela, c'est encore et toujours l'Europe.
Et alors, à ce propos, Vincent, un deuxième post-it.
Vous y prenez le goût, Antoine.
Pardon ?
Vous y prenez le goût, Antoine.
Tout à fait. C'est l'art du petit papier jaune. Un post-it à retrouver donc sur politico.eu, intitulé « Jean-Claude Juncker, EU needs a security union ». L'Union européenne a besoin d'une union de la sécurité. Donc effectivement, un billet qui revient grosso modo sur ce que nous avons dit. Sans Jean-Claude Juncker, nous en arrivons aux mêmes conclusions. Jean-Claude Juncker qui avait donné une conférence de presse aujourd'hui, qui a eu lieu au sein de la commission. Alors autant vous dire que seuls les journalistes accrédités et qui montraient le contenu de leur sac pouvaient rentrer. Mais elle a bien eu lieu, cette conférence de presse. Et Jean-Claude Juncker de déclarer « Nous ressentons que nous avons besoin d'une union du marché des capitaux, d'une union énergétique, d'une union monétaire et économique, mais nous pensons également que nous avons besoin d'une union de la sécurité. » Voilà ce qu'il a déclaré dans cette conférence de presse conjointe avec le Premier ministre français, Manuel Valls. Alors, donc voilà. Pour ce petit billet à retrouver sur politico.eu, dont je vous laisse prendre connaissance du détail. Avez-vous des remarques ou des réflexions sur ce post-it,
non,
Vincent ?
Non, du tout, Antoine, non, du tout.
Bon, autant vous dire que si c'est Manuel Valls qui prend les choses en main, on est mal barré.
Il va encore crisper sa mâchoire.
Oui, je pense que si l'État islamique est du terrorisme visible et abominable, Manuel Valls, lui, par contre, est un terroriste envers le bon sens et l'intelligence humaine. Mais sans transition, Vincent, si vous n'avez plus de post-it à rajouter, je vous propose de passer à vos éphémérides.
Oui.
Alors, s'il y aura une transition tout de même, c'est un jingle pour vous permettre de racler votre gorge plus efficacement. À vous l'antenne, Vincent, pour
Merci
vos post-it
Antoine.
Culturels.
Eh bien, à rappeler que Namur, en wallon Namur, eh bien, c'est la ville francophone et la capitale de la Wallonie depuis 1986 et chef-lieu de la province de Namur. La ville occupe une position centrale à 63 km au sud-est de Bruxelles et à 28 km à l'est de Charleroi et à 58 km à l'ouest de Liège. Donc Namur, eh bien, est doté d'un riche patrimoine architectural historique et de célèbres souterrains qui attirent de nombreux visiteurs. Eh bien, ces souterrains de la citadelle de Namur seront modifiés durant la saison 2016 en raison de rénovations qui débuteront en avril afin de permettre une réalisation scénographique et qui permettra de fait de relancer, de remontrer l'histoire de la ville de Namur. Donc c'est une ville à visiter, une ville à redécouvrir, et surtout pour son patrimoine architectural du Moyen-Âge. Autre petite éphéméride en Belgique, l'appel à souscription lancé le 31 août dernier en vue de racheter la tortue de bronze de l'artiste anversois Yann Favre, qui d'ailleurs vient d'être récemment nommé en Grèce pour diriger un musée. Eh bien, cette œuvre de Yann Favre, qui devait être retirée de la ville de Namur, a suscité un élan de générosité et cela a permis de récolter près de 200 000 euros au lieu des 150 000 euros espérés, indique jeudi après-midi Francis Malcor, directeur de la Fédération du tourisme de la province de Namur. Celle-ci en est l'acquéreur, baptisée Searching for Utopia, à la recherche de l'utopie, qui est donc une immense tortue métallique dorée qui dépasse les tailles naturelles de cette tortue, sur lequel se trouve un personnage chevauchant cette tortue et la guidant. L'œuvre d'une valeur de 500 000 euros au trône à la citadelle au-dessus du Grognon, confluent de la Meuse et de la Sambre, depuis l'exposition « Fasting Time Ropes Fabre ». Quelques 163 donateurs particuliers et entreprises, dont un jeune Namurois de 7 ans, ont répondu à cet appel clôturé le 31 octobre. Le propriétaire, la galerie Guy Peters, a fait un geste commercial de 50 000 euros, ramenant le prix de l'œuvre à 450 000 euros. La fondation Roy Baudouin a effectué un don de 50 000 euros, tandis que le ministre wallon du tourisme René Collin s'est engagé pour 200 000 euros. La totalité des dons reçu permet de réduire l'intervention de la ville à 100 000 euros, de 100 000 euros à 0 euros. C'est d'ailleurs une très belle affaire financière pour une ville, surtout à notre époque. Nonobstant les moyens prévus pour la sécurisation du site, ajoute le directeur de la FTPN, l'Institut culturel italien a présenté un vaste. Pour la sécurisation du site, ajoute le directeur de la FTPN. J'allais commencer à une autre éphéméride. Donc, si vous allez à Namur visiter les fameux souterrains de la citadelle de Namur, n'hésitez pas à aller rendre visite à cette tortue dorée qui cherche justement l'utopie. Une dernière petite éphéméride, mais qui a à mes yeux une très grande importance, l'une des plus importantes collections privées de sculptures et statues antiques en marbre au monde, jusqu'à présent entreposées dans les sous-sols d'un palais romain, donc quasiment jamais vue, sera exposée pour la première fois en 2017 à Rome, avant de voyager à l'étranger. Un accord a été signé mardi entre le ministère italien de la Culture et la fondation Torlonia afin de valoriser la collection de cette famille aristocratique romaine qui compte 620 sculptures et statues à l'importance historique majeure. Dans un premier temps, le ministère organisera une exposition au cours du second semestre 2017 avec une sélection des 60 à 90 œuvres les plus significatives de la collection dont la fondation prendra en charge l'éventuelle restauration. L'exposition voyagera ensuite à l'étranger avant de revenir s'installer de façon permanente à Rome, aux côtés des autres œuvres restaurées entre-temps. La famille Torlonia a fait fortune dans la banque au XVIIIe siècle avant d'être anoblie par le pape Pie VI. Propriétaire de nombreux domaines dans le Latium, les Torlonia ont procédé à de nombreuses campagnes de fouilles sur leurs terres et fait d'importantes acquisitions auprès d'autres collectionneurs. Ils avaient également l'habitude de demander des objets d'art en garantie des prêts consentis à leurs clients et qu'ils n'ont sans doute jamais rendus. Ce qui fait qu'ils ont constitué une très belle collection. Donc, en 2017, chers auditeurs, rendez-vous, après être passé évidemment par Namur, rendez-vous à Rome pour découvrir le génie romain dans le domaine de la statuaire. Merci, chers auditeurs, et à bientôt. À vous, Antoine.
Merci Vincent pour vos post-it culturels. Et vos post-it culturels, quand on les referme, on referme comme à l'accoutumée ce programme hebdomadaire. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou d'ici là en podcast. Et Vincent, j'espère vous retrouver également la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
Sans problème, je serai au poste.
Eh ben, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Bonne soirée.